Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Arrêt sur Image. Alors après 2019, après 2023, les chômeurs vont à nouveau subir un tour de vis. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Alors on ne sait pas exactement comment, on va revoir ça tout à l'heure. Mais alors que le déficit de l'État se creuse, on y reviendra aussi. La cible est toute trouvée pour faire des économies, ce sont les précaires. Le gouvernement prépare un nouveau saccage social en visant les plus pauvres. Et sur les plateaux, on entend encore les mêmes discours. Le chômage en France serait trop protecteur. Les chômeurs se complaisent dans leur situation. Il faut les remettre au boulot, coûte que coûte, surtout pour eux. Une question n'est jamais posée pourtant, ou presque. Quels effets ont eu les précédentes réformes? Ont-elles seulement fonctionné? Pour remettre la France au travail, ou essayer en tout cas, j'ai trois invités avec moi aujourd'hui. Claire Vivès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie au Centre d'études de l'emploi et du travail, spécialiste de l'emploi, des systèmes de protection sociale et de l'indemnisation du chômage. Vous publiez un livre collectif aux éditions Raison d'agir, Chômeur, vos papiers. Et dans une interview à l'Humanité parue en mars, vous jugez que ces nouvelles réformes ont pour but, je cite, « de rendre les périodes de chômage invivables de sorte que les gens acceptent n'importe quel emploi pour en sortir ». À côté de vous, Henri Serdignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, membre fondateur du collectif des économistes atterrés, spécialiste des questions budgétaires. Vous avez cofondé l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et vous publiez chez Fayard un ouvrage collectif, vous aussi, Penser l'alternative, réponse à 15 questions qui fâchent. Et en visio, Cécile Hautefeuille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le pôle social de Mediapart, spécialiste du chômage et des chômeurs. Ce sont vos obsessions listées sur le site de Mediapart. Vous avez relevé en mars dernier une note un peu embarrassante pour le gouvernement. Même le ministère du Travail juge peu opportun, je cite l'euphémisme, de durcir encore les conditions de l'assurance chômage. Note qui visiblement n'a pas été lue ou crue. On va y revenir tout à l'heure. Et avant de commencer cette émission, je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal au JT de TF1 qui a commencé à esquisser peut-être des annonces.
Est-ce que ce soir, vous nous annoncez que vous allez réduire la durée d'indemnisation des chômeurs? Est-ce que là, cela concernera également le montant que les chômeurs vont percevoir chaque mois?
Il y a trois grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Parce qu'on voit qu'il y a un effet très fort dans les 12 premiers mois, mais ça, c'est la première piste. Ensuite, dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage.
C'est 6 mois aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est 6 mois,
les années précédentes.
6 mois sur les deux dernières années. Si vous travaillez 6 mois tous les 2 ans, vous avez votre indemnisation chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler
plus long,
davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, ils s'apprécient sur une durée moins longue, qui n'est plus 24 mois, mais qui est par exemple 18 mois. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes, mais on va laisser les partenaires sociaux travailler.
Cécile Hautefeuille, tout le monde est déjà très agacé autour de la table. Cécile Hautefeuille, première question. Alors, il faut préciser que les négociations sont encore en cours avec les fameux partenaires sociaux. Mais on a l'impression quand même que ça navigue un peu à vue, mais toujours dans le même sens quand même, c'est-à-dire réduire les droits, réduire les droits, réduire les droits.
Oui, alors sur les négociations qui sont toujours en cours, c'est celles sur l'emploi des seniors qui sont toujours en cours. Parce que les négociations sur la convention d'assurance chômage qui définit les règles, elles sont terminées. Elles sont terminées depuis la fin d'année 2023. Les partenaires sociaux ont réussi à trouver un accord, à l'arracher, ça a été compliqué. Mais ils ont trouvé un accord, ils l'ont donné au gouvernement, qui l'a mis dans un tiroir, et qui pour l'instant n'a pas validé ou pas cet accord, puisque le gouvernement peut parfaitement dire non, on n'en veut pas, ça ne respecte pas ce qu'on a demandé, donc on décide tout seul. Mais en tout cas, ils n'ont même pas encore regardé l'accord en disant « Non, finalement, on va attendre que la négociation sur l'emploi des seniors soit terminée. » Et maintenant, on nous annonce une nouvelle négociation alors que la précédente, elle dort encore dans un tiroir et qu'ils ont sans doute regardé, mais en tout cas, personne n'a donné son avis dessus.
Mais est-ce que
c'est quand même assez impressionnant.
Est-ce que du coup, c'est une façon de dire « Bon, bah, la dernière, vous pouvez déjà l'oublier puisqu'on va s'y remettre, quoi. »
Bah oui, de toute façon, le message, il est très clair. Enfin, voilà, Gabriel Attal, il l'a dit aux 20h, ça faisait déjà plusieurs fois qu'il le disait, ils veulent encore réduire la durée d'indemnisation. Donc, de toute façon, ça paraît à peu près évident que ça va se passer. Parce que même si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord ou n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une lettre de cadrage, puisque maintenant l'exécutif donne ce qu'on appelle une lettre de cadrage. C'est un peu comme une liste de courses avec un budget précis. Voilà, vous allez aller faire les courses et vous allez respecter ça. Et si jamais ça ne convient pas à l'exécutif, il peut décider tout seul des règles. C'est l'une des premières mesures de la Macronie en 2017. C'est la reprise en main, en fait, des décisions. Bon, voilà, les partenaires sociaux continuent à proposer des choses, mais si ça ne convient pas à l'exécutif ou s'il n'arrive pas à se mettre d'accord, l'exécutif décide.
Henri Sterdignac, je vous voyais souffler et secouer la tête pendant qu'on écoutait Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention aux 20h ?
J'ai été profondément horripilé. Je pense comme chacun, comme mes deux collègues, je veux dire, d'abord parce que normalement, l'assurance chômage, ben, c'est l'argent des travailleurs. Ça doit se décider avec les partenaires sociaux qui doivent négocier, qui doivent avoir des idées communes. Et là, on a l'État qui intervient avec ses gros sabots pour durcir les... pour imposer des conditions draconiennes, c'est tout à fait inacceptable du point de vue de la démocratie sociale, du point de vue du paritarisme, surtout, on va peut-être l'évoquer tout à l'heure, que l'UNEDIC est excédentaire. Il y a un excédent qu'on peut... 1,6 milliard sur les chiffres officiels, 8 milliards s'il n'y avait pas des ponctions injustifiées de l'État. Et donc, ce numéro de Attal est tout à fait déplaisant.
Claire Vivès, Gabriel Attal met trois pistes sur la table, qui sont donc, on n'a pas encore décidé, hein, on l'a bien compris, soit la réduction de la durée de l'indemnité. Il dit, a priori, on n'ira pas sous les 12 mois. Mais on sent que même cette porte-là est ouverte, c'est-à-dire que lui dit, je pense qu'il ne faut pas le faire, mais bon, c'est pas un non définitif. L'augmentation du temps de travail nécessaire pour s'ouvrir à l'allocation chômage dans les deux ans précédant le chômage. Et bah, la réduction bêtement des sommes touchées au chômage. Ça, c'est des mesures qui ont déjà été commencées, qui ont déjà été mises en place par le passé. Est-ce que c'est encore, finalement, on va de plus en plus loin, mais jusqu'où ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on tire sur la corde jusqu'à ce que ça lâche, quoi.
Effectivement, en fait, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de 40% des demandeurs d'emploi qui, à un mois donné, sont indemnisés par l'assurance chômage. Donc en fait, les conditions qui existent déjà excluent beaucoup, beaucoup de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui ne perçoivent déjà pas l'indemnisation chômage. Donc les pistes, que ce soit la piste de la durée des droits ou la piste des conditions d'accès aux droits, c'est, si on touche à ces deux paramètres-là, on va exclure encore davantage de personnes de l'assurance chômage. Quant à l'autre paramètre qui est celui du montant, là aussi, il faut avoir en tête que particulièrement depuis la réforme dont l'entrée en vigueur, qui est entrée en vigueur en décembre 2021, les montants ont déjà énormément baissé. On est à plus de 40% des nouvelles, des ouvertures de droits, c'est-à-dire des personnes qui perdent un emploi et qui ouvrent des droits au chômage avec les règles. Ces anciennes règles-là, donc les règles de calcul du montant qui valent depuis début 2022, qui ont moins de 30 euros par jour. Donc en fait, et même dans ces personnes-là, il y a des personnes qui ont des droits tellement faibles qu'ils ont droit à un cumul de RSA. Donc l'image qu'on pouvait avoir de l'assurance chômage comme d'une assurance sociale qui donnait un revenu de remplacement, qui limitait l'écart entre le salaire perdu et l'allocation, pour beaucoup d'allocataires de l'assurance chômage aujourd'hui, c'est plus à ça. Enfin, on n'est plus dans ce monde-là, dans ce droit-là, en fait. Donc,
c'est-à-dire que concrètement, pour l'immense majorité des allocataires, l'indemnité touchée au chômage ne s'approche même pas du salaire précédent, mais même pas de la moitié du salaire, parce que 30 euros par jour, c'est...
Ça veut dire que c'est des gens qui ont perdu un salaire un revenu qui était très faible. C'est lié aussi au mode de calcul. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que on est très loin de l'image du revenu de remplacement qu'on pouvait avoir, qui était la fonction de l'assurance chômage, en fait.
Alors, justement, sur ce sujet, je voudrais qu'on écoute ce qui s'est dit sur les chaînes d'infos, notamment chez les éditorialistes, qui jugent globalement qu'il faut remettre les chômeurs au travail, coûte que coûte, comme je le disais en introduction.
Pour compter sur la croissance, il faudrait qu'on soit au plein emploi. On n'y est pas. On n'y est pas parce qu'il y a encore 2 millions d'emplois qui ne sont pas pourvus en France. On a un chômage qui est hyper protecteur, il faut dire les choses très clairement. Si on ne travaille pas un peu plus, moi c'est mon avis que je donne, vous pouvez être en désaccord parfait. Si on ne travaille pas plus, eh ben, on ne s'en sortira pas. C'est aussi simple que ça.
Travailler plus, ça veut dire que vous avez 3 millions de chômeurs en France. Il y en a bien 1 ou 2 millions qui peuvent reprendre un travail et puis quand même faire tourner la machine. Parce que ceux-là, finalement, c'est sûr que ce n'est pas facile d'être au chômage. Mais il y en a certains, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient être employées.
Faites le tour des restaurants. Il manque de personnel, mais y compris des grands hôtels. Ils ne trouvent personne. Donc ça, c'est le vrai sujet, c'est l'incitation à l'activité. Et c'est un problème de civisme aussi. Parce que c'est pas seulement un problème d'argent, c'est pas beaucoup d'argent forcément, mais si on veut réintroduire du civisme dans la société française, c'est ça. Tu fais et t'es payé, ou tu fais pas et t'es pas payé.
Ah, on dirait du Attal.
On dirait du Attal. Le cri du cœur. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur trois éléments dans ces discussions qu'on a entendues. D'abord, les 2 millions d'emplois vacants. Je vous ai entendu sursauter, Claire Vives.
J'ai jamais entendu ce chiffre.
C'est nouveau.
C'est nouveau.
Oui.
Généralement, c'est 300 000. Oui. Voilà.
400 000 à tout casser, mais 2 millions, j'ai jamais entendu.
OK, donc ce chiffre-là, déjà, on peut dire qu'a priori, il est sorti du chapeau, ou en tout cas, il n'est pas sourcé. Deuxième chose, sur l'idée que, finalement, il y a bien 1 ou 2 millions de chômeurs qui vont pouvoir reprendre le travail, c'est sur votre feuille. C'est la question, peut-être, qu'on peut se poser. Pourquoi ces 2 millions de chômeurs ne veulent pas reprendre le travail et pourquoi ce n'est pas si facile de les remettre au travail?
Déjà, tous ces gens qu'on entend parler sur les plateaux télé, je pense qu'ils ont rarement ou jamais fait l'expérience du chômage. Et l'autre chose, ce qui est intéressant dans tous ces discours et qui rejoignent de toute façon les discours du politique, c'est de dire, c'est bon, ceux qui veulent vraiment travailler, il y a du boulot, il y en a, mais à quelles conditions de travail, à quel salaire. Et au final, ce que nous, on essaye, on n'est pas les seuls, de dire régulièrement, tout le temps, c'est que le combat des droits au chômage, des chômeuses et des chômeurs, c'est le même combat que celui des salariés. En fait, on oppose tout le temps les gens en disant, les personnes qui se lèvent le matin pour aller travailler, c'est pour les énerver, en fait, qu'on leur parle des chômeurs qui, eux, ne font rien et vont en vacances aux Bahamas. Sauf qu'en fait, c'est vraiment le même combat, parce que pousser des gens à accepter n'importe quel emploi, avec n'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire, c'est empêcher les autres de négocier des salaires par le haut, des conditions par le haut. Le combat, c'est le même, en fait, entre les chômeuses et les chômeurs et les salariés. Et donc, moi, quand j'entends ce genre de discours, ça m'horripile, parce que, encore une fois, OK, oui, des offres d'emploi, il y en a, mais c'est quoi ces offres d'emploi? C'est quoi ces jobs? Ils sont payés comment? C'est quoi? C'est des temps partiels? C'est des temps complets? C'est quoi les conditions de travail? Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très énervant.
Bien sûr. Claire Vives.
Je suis d'accord avec ce que dit Cécile, mais au-delà du fait... Enfin, je pense qu'il faut aussi voir que, en plus, ce sont les mêmes personnes. C'est pas seulement opposé. Enfin, il y a une opposition qui est créée de toutes pièces entre, d'un côté, cette catégorie des salariés, enfin, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent, et de l'autre côté, cette catégorie des chômeurs qui seraient ceux et celles qui ne se lèvent pas, qui sont flemmards, qui ne veulent pas travailler, qui manquent de civisme ou je ne sais pas quoi. Sauf qu'en fait, pour beaucoup, ce sont exactement les mêmes personnes. C'est-à-dire que, on a aujourd'hui un allocataire sur deux, un mois donné, un allocataire de l'assurance chômage qui travaille. Et même si on regarde sur toute la durée de leurs droits, on est plutôt à deux personnes sur trois. Donc déjà, opposer les personnes indemnisées qui ne travailleraient pas et les salariés qui travailleraient, c'est pas justifié, en fait. Autre élément, on a vu dernièrement la fuite des données de Pôle emploi. Et dans cette fuite des données, il y avait 43 millions de personnes concernées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde passe à un moment par Pôle emploi, en fait. On est tous dans cette... j'y étais, peut-être que vous y étiez aussi, j'en sais rien. Donc, cette idée de dire qu'il y aurait ceux qui ne vont jamais travailler et les autres, c'est pas vrai, en fait. Il faut voir que ce sont les mêmes personnes et qu'on les oppose de manière fictive.
Je précise juste qu'en effet, il y a eu donc une fuite de données massive des allocataires à Pôle emploi, France Travail, et que donc ça concernait plus de 40 millions de personnes. Henri Stardignac, sur cette idée que finalement, la balance chômeur-emploi disponible, bah c'est résorbable juste par un calcul simple, une soustraction, une addition. Et en fait, si on a 2 millions d'emplois libres, bon, on a vu que ce chiffre en plus n'était pas bon, et qu'on a 2 millions de personnes au chômage, bah, il suffit de mettre tout le monde en contact et ça va marcher. Quoi.
Bon, y a pas, comme on l'a dit, il y a au mieux 300 000 emplois non pourvus, sachant qu'il y a toute une discussion sur savoir ce que c'est qu'un emploi non pourvu, parce que naturellement, bah, y a des entreprises qui font des offres d'emploi, mais qui n'ont pas l'intention d'embaucher immédiatement. Il y a des délais, tout ça, donc c'est fictif. Et par ailleurs, hein, donc on voit, comme on l'a dit, le grand objectif du gouvernement, c'est de supprimer l'idée même que le chômage, c'est un moment où effectivement, un droit, quelque sorte, des travailleurs, le droit de trouver un emploi qui convient. Et l'idée, c'est de dire, ben, on dit aux gens, ben, prenez n'importe quel emploi, dans n'importe quelle condition de travail, avec n'importe quel salaire, et vous n'avez pas le choix. Et donc, on a un ensemble, parce que les mesures qui sont prises aujourd'hui sur l'assurance chômage, ça se rajoute au fait que Attal veut supprimer l'allocation spécifique de solidarité qui, quand même, aidait un peu les personnes en fin de droit. Et ensuite, on veut jeter tous ces gens dans le RSA, sachant qu'il y a des mesures. On dit par ailleurs que le RSA va être contrôlé, qu'il va falloir 15 heures d'activité socialement contrôlée. Donc l'idée, c'est de dire aux gens, ben, prenez n'importe quel boulot, parce que sinon, eh ben, vous allez vous trouver dans la misère. Et donc, c'est un objectif politique bien claire qui est de dégrader les conditions de travail de l'ensemble des salariés.
On va écouter Gabriel Attal sur le RSA juste après, mais d'abord, il y a aussi un élément qu'on entend rarement dans tous ces débats, c'est le fait que l'assurance chômage, bah, elle est financée par les gens qui travaillent, par nous, et donc quand on travaille, on finance l'assurance chômage qui nous sera versée quand on se retrouvera sans emploi. Pourquoi cette donnée-là, elle n'est pas dans le débat alors que c'est quand même une évidence ?
Il y a quand même quelque chose d'important à souligner, c'est que l'une des premières choses qui a été faite quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, ça a été de supprimer la cotisation salariale au chômage. C'est-à-dire que les salariés ne cotisent plus. Maintenant, c'est prélevé via la CSG, un impôt, ce qui lui donne le droit de décider de faire ce qu'il veut. Il y a toujours des cotisations patronales pour l'assurance chômage, mais les cotisations salariales, non. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez su, pas assez dit, pas assez répété.
Et c'est quoi la conséquence quand vous dites qu'il en fait ce qu'il veut, du coup ?
Bah, ça lui donne... c'est ce qui a été fait après, justement, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les fameuses lettres de cadrage, la liste de courses. Mais ça, du coup, ça lui donne le droit d'avoir les mains libres pour déterminer les conditions dans lesquelles les chômeuses et les chômeurs auront des droits, quel montant, quelle durée. Ça a été l'une des premières choses qui a été faite, ça a été de supprimer les cotisations en le vendant comme quelque chose de formidable parce que ça vous faisait gagner quelques euros sur votre fiche de paye en net. Et du coup, les gens disent régulièrement « j'ai droit, je cotise ». Mais non, aux cotisations salariales, non, elles n'existent plus. Maintenant, c'est la CSG qui finance, côté salarié.
Henri Sardignac, vous avez parlé du RSA. Je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal, qui justement a parlé de cette expérimentation qui a été mise en place, qui impose aux allocataires du RSA de travailler. Et il en a tiré visiblement des résultats extrêmement positifs.
Le succès de l'expérimentation du RSA dans les Vosges, c'est aussi le reflet de son succès à travers le pays, dans les 18 départements où elle est menée. Au total, dans ces 18 départements, près de 22 000 bénéficiaires du RSA ont intégré des parcours d'accompagnement. C'est 800 personnes par semaine et ça continue à s'accélérer. Mais ce n'est pas tout, les bénéficiaires trouvent la voie de l'accompagnement, retrouvent le chemin de l'emploi. Je vous le disais, après 7 ans au RSA, jusqu'à maintenant, une personne sur 10 seulement retrouvait un emploi durable. Eh bien, avec la réforme, dans les 5 mois suivant leur entrée dans un parcours professionnel, une personne accompagnée sur 2 a trouvé un emploi. Sans la réforme, en 7 ans, 1 sur 10 a un emploi. Avec la réforme, en 5 mois, 1 sur 2 a un emploi. C'est un progrès absolument colossal. Alors il n'y a pas de secret, puisque les résultats sont là, on appuie sur l'accélérateur. Avec Catherine Vautrin, nous sommes déterminés. C'est pourquoi, je vous l'annonce, nous franchissons une nouvelle étape vers la généralisation de la réforme du RSA. Jusqu'ici, 18 départements l'expérimentaient. Nous allons l'étendre à de nouveaux territoires, dans les départements où elle est déjà engagée. et l'a lancé dans 30 nouveaux départements. Au total, ce sont donc 47 départements où la réforme du RSA avec contrepartie sera en place, près de la moitié des départements français.
Je voyais tout le monde encore faire des grands yeux en écoutant Gabriel Attal. J'ai l'impression que Gabriel Attal vit dans une réalité parallèle de ce plateau, mais là, encore une fois, il y a un élément qu'on n'a pas, si on considère que les chiffres que donne Gabriel Attal sont justes. Partons de ce prémisse une minute. Et, ah, déjà, vous ne voulez pas partir de ce prémisse,
non.
Vous
non, non, bah, allez-y, pas. Allez-y. Non, bah, en fait, on ne sait pas, c'est son boulot, hein, mais il sort des chiffres, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment. Et le premier élément qui permet de mettre en doute ces chiffres, c'est aussi l'ancienneté de la réforme et de l'expérimentation. Il compare des chiffres anciens avec ces nouvelles entrées et il dit, j'ai oublié les détails, mais sauf que, en fait, vu les délais d'expérimentation du RSA, on ne peut pas pour l'instant savoir s'il y a des gens qui ont un emploi durable ou pas. Ça fait 3 mois que c'est en vigueur, en fait. Donc, emploi durable, il compare des choses qui ne sont pas comparables.
Ça rejoint la question que j'allais vous poser, c'est qu'encore une fois, on ne parle pas de la qualité de ces fameux emplois. C'est-à-dire qu'on considère juste que quelqu'un qui travaille, bah, c'est génial parce qu'il travaille. Mais on ne sait pas comment il travaille, ni pour combien, ni dans quelles conditions.
Non.
Il compare des gens qui, quand il dit 1 sur 10, on retrouve un emploi durable, ok, mais les 1 sur 2 qui ont retrouvé un emploi, rien ne dit effectivement que c'est un emploi durable, puisque ça, c'est sur 3 mois, donc ça peut être n'importe quoi. Donc c'est une manipulation des chiffres. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on dit on va faire une expérimentation. Une expérimentation, ben, c'est quelque chose de plus ou moins scientifique, ça demande un certain temps, ça demande une certaine expertise, et là, c'est les chiffres qui sont lancés n'importe comment.
Cécile Hautefeuille, sur cette expérimentation du RSA, alors, on va arriver à vos révélations sur cette fameuse note du ministère du Travail, mais là, encore une fois, c'est qu'on a une expérimentation qui est bâclée, disons-le, on en tire des conclusions, mais en fait, tout ça, on a l'impression que tout ça est prévu d'avance, c'est-à-dire que peu importe l'expérimentation, de toute façon, quand Gabriel Attal dit « puisque ça marche, on appuie sur l'accélérateur », on avait l'impression que le discours était écrit depuis le premier jour de l'expérimentation, en fait.
Oui, peut-être même avant de les lancer, d'ailleurs. Ils avaient déjà décidé que ça allait fonctionner. Moi, j'aimerais bien savoir d'où ils sortent ces chiffres, effectivement. J'aimerais bien les voir, moi, les résultats de ces expérimentations. Ça serait intéressant. Mais effectivement, non, nous, en tout cas, on n'a pas eu d'infos sur des retours en la matière. Mais de toute façon, quand il y a des retours sur des réformes, on y viendra peut-être après, on commence à avoir les premiers bilans de la réforme de 2019 et l'exécutif, clairement, voit ce qu'il a envie de voir dans les retours. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, nous, on a mis la main sur une note donc de la DARES, c'est l'Institut statistique du ministère du Travail, signée de la main du directeur de la DARES et de la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle, qui a été envoyée au cabinet du ministère du Travail à l'automne. Donc c'était encore Olivier Dussopt à l'époque. Et c'est une note très claire de 8 pages qui... met en garde le gouvernement sur l'idée d'une nouvelle réforme telle que Gabriel Attal nous la présente aujourd'hui.
J'en lis un extrait et puis on va l'afficher. Donc, c'est une enquête que vous avez publiée le 28 mars. Et donc cette fameuse note de la DARES et de la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation, donc la DGEFP, elle dit ceci. La note préconise aussi d'attendre l'évaluation de la précédente réforme avant d'en enclencher une autre plus dure encore, ce qui repousserait de plusieurs années toute nouvelle mesure. Et donc là, vous citez la note. La mesure ayant été introduite très récemment, les éléments d'évaluation ne sont pas encore disponibles. Il serait opportun d'attendre d'observer les effets de la mesure sur un an, donc les données seraient disponibles en 2025, avant d'envisager une éventuelle évolution des paramètres. Ça veut dire que même au ministère du Travail, alors du coup, époque Olivier Dussopt, maintenant c'est Catherine Vautrin, on sait que ce qui est en train de se faire aujourd'hui ne va pas dans le bon sens.
Bah en tout cas, leurs propres services les ont alertés sur le fait que ça n'allait pas dans le bon sens, parce qu'on n'a pas d'évaluation, comme l'extrait que vous venez de montrer. Il y a un risque pour eux économique parce qu'ils préviennent dans cette note que pour l'instant, les feux ne sont pas du tout au vert sur la conjoncture à venir. On ne s'oriente pas vers un taux de chômage qui va baisser, on dit plutôt qu'il va stagner, voire augmenter. Donc on dit attention, ce n'est pas le moment. Et par ailleurs, c'est en totale contradiction avec l'esprit de la précédente réforme qui avait déjà baissé la durée, qui avait été faite au motif qu'à ce moment-là, ça allait bien. On nous expliquait quand ça va bien, on réforme, on durcit. Quand ça va pas, quand ça va mal, on assouplit. Sauf que là, ça commence à aller un peu moins bien, voire mal. Eh ben, on réforme quand même, on durcit quand même. Donc ça, la note le souligne en disant, en gros, c'est contradictoire avec ce que vous-même aviez dit. Et il pointe aussi un risque juridique. parce que la modulation de la durée d'allocation chômage, elle a été, il y a un recours devant le Conseil d'État d'organisation syndicale et le Conseil d'État n'a toujours pas rendu son avis au fond. Et donc, les services du ministère du Travail préviennent, attention, il y a un risque juridique. Parce que si c'est retoqué par le Conseil d'État, tout s'effondre.
Et est-ce qu'on sait ce qui en a été fait de cette note ? Comment elle a été reçue ?
Aucune idée. Non, aucune idée. Nous, on a essayé de poser des questions sur les choses qui étaient soulevées par la note au cours d'un brief presse à l'issue du 20h de Gabriel Attal sur TF1. Donc voilà, moi j'ai posé des questions précises sur le risque juridique, sur la contradiction avec « bon, bah, maintenant ça va un peu moins bien, pourquoi vous continuez à réformer ?» Bon, mes questions, elles auraient été purement et simplement ignorées.
Très bien, enfin très bien façon de parler, mais même pas une réponse pour vous dire « on ne répondra pas », juste pas de réponse.
Non, il n'y a pas eu de réponse sur ces questions-là. Et par ailleurs, j'ai vu que le journal Le Monde avait publié un article aujourd'hui sur cette même note. Je ne sais pas s'ils ont posé cette question de est-ce que vous l'avez lu, pourquoi, je n'ai pas encore lu l'article, je dois l'avouer. Donc j'irai voir, peut-être qu'ils ont eu cette réponse, mais non, je pense que cette note, elle a été ignorée. C'est, de toute façon, c'est écrit dans la note, noir sur blanc, qu'Emmanuel Macron a déjà son scénario en tête. Donc, une fois que vous lisez ça, vous comprenez. Emmanuel Macron, depuis bien longtemps, veut que la durée d'indemnisation baisse à 14 mois environ, 14 mois et demi, contre 18 mois aujourd'hui. C'est écrit noir sur blanc, c'est très clair.
Oui, ils expliquent que c'est le plan privilégié par l'exécutif. L'exécutif
par Emmanuel Macron. C'est écrit Emmanuel Macron, le scénario privilégié par Emmanuel Macron. C'est clair.
Claire Vivès, il y a une séquence qui a beaucoup fait réagir et que je voudrais qu'on regarde. C'est un débat entre François Gisbert et Michaël Zemmour, qui est économiste, sur BFM TV et on a encore cette rengaine du chômeur qui, finalement, profite un peu trop.
Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui restent sans emploi, parce qu'elles ont des difficultés, parce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on n'est pas en emploi et qu'on ne peut pas aller travailler dans un restaurant à Marseille, il y a plein de raisons dans la vie, on peut avoir des problèmes de santé, de logement, on peut ne pas avoir la formation suffisante. Pour toutes ces raisons-là, ces personnes vont être appauvries et famille.
C'est vrai pour certaines, vous savez très bien, là, vous avez une façon de généraliser, c'est pas sérieux.
Ah non.
Ce que vous dites là, c'est pas sérieux.
Si.
Vous généralisez complètement.
Parce
qu'il y a certainement des cas pour lesquels c'est vrai. Je pense que d'ailleurs, c'est des sujets sur lesquels, je pense qu'il faut en parler avec prudence, effectivement, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Enfin, on est d'accord là-dessus. Mais simplement, globalement, vous savez très bien. Quand je dis ça, c'est pas de l'abus. C'est juste que c'est le béaba quand même en politique. Là, ces gens-là, ils cherchent de l'argent. L'assurance chômage. Je suis désolé. Il y a beaucoup de coulages. Et ils cherchent de l'argent.
Non.
Ils en cherchent ailleurs aussi. Mais non, mais dites pas le contraire. Vous savez très bien. Là, vous êtes c'est une posture politique,
mais
c'est pas. Bah, bien sûr, c'est une posture politique.
Il y a contrôle beaucoup, étroit des chômeurs, mais bien sûr.
Mais vous savez,
vous avez la moitié des personnes qui sont au chômage qui ne touchent pas l'aide au retour à l'emploi,
oui,
qui n'ont pas de droit au chômage. Donc ces personnes-là, elles n'ont aucun revenu et elles ne retrouvent pas d'emploi pour autant. Quand on est au chômage, on ne vit pas bien. Et d'ailleurs, quand on est au RSA, par exemple, on passe du temps à chercher des solutions,
et
à essayer
pas,
de survivre.
Ce n'est pas de ces gens-là dont on parle.
Ça pose une difficulté, je vous explique.
Il faut les traiter. Effectivement, vous avez raison. Mais je parle des autres. C'est un problème. Globalement, tous ceux qui peuvent trouver du boulot et qui finalement se satisfont de la situation.
Moi, je vous explique la manière dont on se pose la question comme économiste.
Tous les Français le savent. On connaît tous des personnes qui sont mises en chômage, chômage de convenance, on peut appeler ça. Ils ont demandé une rupture conventionnelle, ils prennent un an tranquille et ils reviennent après. Vous savez très bien, ça existe dans beaucoup de métiers, ça.
Oui.
Ça existe. Mais non, mais attendez.
La réponse de Michaël Zemmour, on sera obligé de s'arrêter là.
Votre
sur ce sujet, Michaël.
Alors, Michaël Zemmour, aveuglé par son idéologie. J'ai plein de questions sur cette séquence. La première, Claire Vivès, est-ce qu'il y a, comme le dit François-Olivier Gisbert, deux castes de chômeurs, c'est-à-dire ceux qui, en effet, ils souffrent, il faut les traiter, c'est le mot qu'a utilisé François-Olivier Gisbert, on ne sait pas comment, mais en tout cas, voilà. Et ceux qui seraient un chômage de convenance, je crois que c'est l'expression qu'il utilise. Il dit même, il y a ceux qui se mettent au chômage, comme si c'était finalement un plaisir, une nouvelle voie de carrière, de se mettre au chômage pour en profiter. Est-ce que ces deux classes de chômeurs-là, elles existent, ou est-ce qu'au final, en fait, c'est une infime minorité qui vit peut-être correctement du chômage.
Oui, enfin, effectivement, dans son discours, ce qui est intéressant, je trouve, c'est cet implicite sur la représentation qu'il a du chômeur. Alors, une personne qui se met volontairement au chômage, qui a des droits longs, parce qu'il dit « oh, il reste 12 mois », puis après, qui a une durée d'indemnisation longue, et on devine à ce qu'il dit que le montant de cette indemnité est lui aussi suffisamment confortable pour continuer à vivre normalement, sauf qu'on ne travaille pas. Enfin, moi, en fait, j'ai l'impression que ça doit être quatre de ses amis, parce que c'est un peu ce profil social-là, quoi, qui ça correspond, mais bon, peu importe. Sauf que ça ne correspond pas, en fait, aux figures, et je le mets au pluriel, aux figures des allocataires aujourd'hui, en fait. Ça recoupe ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, cette diversité des situations des allocataires, et je ne parle même pas, Michaël Zemmour y fait allusion, je ne parle même pas des gens qui n'ont pas d'allocation chômage, mais cette multiplicité des figures d'allocataires, elle est complètement gommée, en fait, du débat public. Il y a une très grande diversité et j'ai le sentiment qu'on est un peu resté, enfin, bloqué sur une figure qui n'est même pas forcément une figure ancienne, mais de cette personne intégralement au chômage pendant longtemps et de manière confortable. Et là, j'ai envie de dire, on passe complètement à côté de la réalité.
Henri Sardignac, il y a une phrase aussi qui est intéressante. Il dit il y a beaucoup de coulage. Sous-entendu, on jette l'argent par les fenêtres dans l'assurance chômage, on ne contrôle rien. Et pourtant, vous nous disiez tout à l'heure, et du coup, on y revient maintenant, que le budget est excédentaire.
Oui, d'abord, comme on l'a dit, il y a un contrôle. Normalement, les gens doivent montrer qu'effectivement, ils font des démarches pour retrouver un emploi, et donc il n'y a pas de coulage organisé. Et par ailleurs, le système est actuellement en excédent, c'est-à-dire, pour donner des chiffres, un peu cette année, on va avoir 48 milliards de recettes, on va dépenser 40 milliards pour indemniser les chômeurs, donc on a un excédent potentiel de 8 milliards, et le gouvernement a décidé qu'on va prendre 2,5 milliards pour financer l'apprentissage, ou on va prendre par ailleurs 5 milliards pour financer France Travail. Donc France Travail est financé par l'argent des travailleurs, et puis il y a un excédent donc qui va être de l'ordre de 1 milliard. Donc le grand déficit dont on va éventuellement parler tout à l'heure, c'est pas du tout l'UNEDIC. L'UNEDIC est ponctionné pour des choses qui ne sont pas directement l'indemnisation du chômage, mais la grande préoccupation du gouvernement, c'est d'éviter que effectivement cet argent, cet excédent, soit gâché, par exemple en augmentant les indemnités des chômeurs ou en leur donnant des situations plus favorables. Et donc, dès qu'il y a un peu d'excédent, ils le chipent.
Mais oui.
Faut quand même, sur l'excédent, je ne suis pas en désaccord, mais il faut voir à quel prix, en fait, on a cet excédent. C'est-à-dire qu'on a un excédent au prix de moins d'un demandeur d'emploi sur deux qui est indemnisé des montants d'indemnisation et des durées qui ont été vraiment très, 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 très abaissées par les réformes antérieures. Donc, l'excédent, c'est quand même le résultat déjà, et ça, c'est un résultat avéré. On verra que les résultats sur le retour à l'emploi, je crois qu'on a prévu, vous avez prévu d'en parler plus tard, mais sont moins avérés, mais cela, c'est incontestable. Et c'était de toute façon très prévisible. C'était l'objectif même des réformes. Mais donc voilà, cet excédent, c'est le résultat des mauvais traitements, en fait, de la mauvaise couverture qui est aujourd'hui celle
donc
que
on aurait pu dépenser, chômage, pour dire la même chose autrement, on aurait pu dépenser 8 milliards de plus pour mieux indemniser,
pour
mieux indemniser les gens. Et là, l'État, pour éviter cela, les a chipés.
Mais alors du coup, pardon, question peut-être un peu bête, mais on pourrait se dire, ces 8 milliards, gardons-les comme un trésor de guerre, parce que si la situation empire, comme le disait Cécile Hautefeuille tout à l'heure, si jamais on avait un nouvel effondrement économique ou une nouvelle période difficile d'ici dans l'année ou dans les deux ans qui viennent, pourquoi, entre guillemets, ponctionner cet argent plutôt que de le garder dans les caisses pour s'assurer que si jamais ça va plus mal, on aura de quoi faire face?
Vous savez, c'est le rôle des dettes et des trésoreries de ne pas se poser la question et de ne pas dire, on va accumuler des trésors de guerre. On n'a pas... Le système est à peu près équilibré lorsqu'on a un taux de chômage de 8%. Là, quand on descend en dessous, il est excédentaire. Et donc, C'est pas le moment d'accumuler des, c'est pas le moment d'accumuler des trésors de guerre. Le moment, c'est de se, pour dire des choses horribles, le moment, c'est de se dire ben, quels sont les trous, les gens qui sont pas indemnisés. Et c'est pour ça qu'il faudrait dire le contraire de ce qu'a dit Monsieur Attal, c'est-à-dire que normalement, la logique, c'est qu'on indemnise tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'une personne se pointe et dit, ben voilà, je fais des efforts, je cherche un boulot, je suis j'ai la capacité de gagner 2000 euros par mois, ben il est normal que cette personne soit indemnisée, que ce soit une femme, par exemple, qui reprend un emploi après avoir arrêté, un jeune qui cherche un boulot, il est normal qu'on essaye d'indemniser un maximum de monde et non pas qu'on limite l'indemnisation à une faible proportion de la population. Donc, il faut retrouver, en quelque sorte, la logique même de l'assurance chômage, c'est-à-dire de permettre aux gens qui veulent un emploi d'avoir un niveau de vie garanti et puis un temps qui leur permet de trouver un emploi correspondant, un emploi satisfaisant, correspondant à leurs compétences, alors que là, on est dans l'optique... On va dire aux gens, dépêchez-vous, sinon vous n'aurez plus d'indemnisation. Et une fois que vous n'aurez plus d'indemnisation, ce sera le RSA. Et quand ce sera le RSA, vous allez voir, c'est horrible, parce que vous aurez 15 heures à travailler sans être rémunéré.
Cécile Hautefeuille, je lis le titre d'une enquête que vous avez publiée le 28 février. Assurance chômage, un premier bilan confirme les effets délétères de la réforme de 2019. Justement, je voudrais qu'on y vienne à cette réforme de 2019 et à ses conséquences, puisqu'on se lance dans une nouvelle réforme, alors que, à vous lire, celle d'avant n'a pas marché. Ou en tout cas, pas pour tout le monde.
Non, en fait, effectivement, l'article s'est basé sur un rapport intermédiaire, un bilan intermédiaire publié par la DARES, encore elle. Le rapport définitif est attendu, je crois, dans quelques mois. Ce que dit ce rapport intermédiaire, bon, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Claire, c'est qu'il y a eu des gros perdants, des grands perdants, notamment les jeunes et les plus précaires, qui ont beaucoup perdu en termes de droits, en termes de durée et de montant de droits. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que les effets sur le retour à l'emploi, ben, c'est pas dingo, quoi. C'est pas du tout ce qui était attendu. Et ce qui est vachement intéressant aussi dans ce bilan intermédiaire, c'est qu'on découvre, pour ceux qui ne le savaient pas encore, que le mythe du chômeur optimisateur, et ça, je pense que ça va bien parler à Claire, le mythe du chômeur optimisateur n'existe pas. C'est-à-dire que ça a été... alors, tout à l'heure, on avait les copains chômeurs de l'éditorialiste, là, mais pendant quelques temps, on avait le chômeur aux Bahamas, on a eu le chômeur qui gagne plus au chômage qu'en travaillant, on a eu le chômeur optimisateur aussi. Alors, c'était... Oui,
je vous lis, j'explique ce que c'est le chômeur optimisateur, oui, pour les gens qui, justement, ne connaîtraient pas le concept. Donc, c'est le chômeur qui calculerait, je vous lis, en fin stratège, comment profiter de ses allocations chômage en travaillant le moins possible. C'est-à-dire, si je comprends bien votre définition, c'est-à-dire le chômeur, pardon, allocataire, qui va travailler ensuite le minimum possible pour réactiver ses droits, droits qu'il espère évidemment le plus haut possible.
Exactement. J'ai bien résumé, mais c'est pas ma définition.
Non, bien sûr. Non, mais je simplifie pour les gens. Je simplifie pour les gens qui connaissaient pas le concept. Et donc vous dites, en fait, c'est un mythe. Ça n'existe pas, ces gens-là.
C'est écrit dans ce rapport intermédiaire, c'est écrit. Il y a eu des enquêtes de terrain qui ont été menées auprès de différents salariés, de personnes qui travaillent dans l'intérim, qui alternent des petits boulots et des périodes de chômage. Ces personnes-là qui sont censées optimiser. Et en fait, ce qui a été découvert, c'est que la majorité des gens ne maîtrisent pas du tout la réglementation de l'assurance chômage, ne savent même pas quelles ont été les conséquences de la réforme de 2019. Ils voient bien qu'ils gagnent moins d'allocations chômage qu'avant, qu'ils ont moins d'allocations, qu'ils ont moins de durée, etc. Mais ils sont incapables, en fait, de précisément comprendre comment ça marche. Pas parce qu'ils sont idiots, mais parce que la réglementation, elle est d'une complexité sans nom. Vraiment, elle est très complexe. Et donc, ça montre que les gens, effectivement, ne modifient pas leur comportement en fonction des réformes, puisqu'ils ne comprennent pas les réformes. Et ça montre aussi que les employeurs ne changent rien non plus, en fait. Donc, au final, le retour à l'emploi durable et la fin de l'emploi précaire qui nous avait été promis, juré par Muriel Pénicaud à l'époque, bon, bah, pour l'instant, le compte n'y est pas du tout.
Je donne juste un chiffre, hein. Les plus de 25 ans sont ceux qui pâtissent le plus de la réforme. Pour elles et eux, l'effet de la réforme est exclusivement porté par une augmentation du retour en emploi peu durable, CDD de durée inférieure à 2 mois ou mission d'intérim. Donc on est vraiment sur de l'emploi précaire, précaire, précaire. Oui, sur ce sujet.
Ça vous fait sourire, le chômeur optimisateur, mais il faut quand même savoir que c'est cette figure, pour le coup, la représentation du chômeur qui était sous-jacente à la réforme de 2019-2021, qui a énormément diminué le montant des droits pour les salariés à l'emploi discontinu. Toute cette réforme, elle était irriguée par cette figure du chômeur optimisateur. Et donc, il se trouve que avec des collègues, j'avais répondu, enfin, un appel à recherche de la DARES, donc le ministère du Travail. Ça devait être en 2018. On avait déjà publié nos résultats. On n'a jamais trop d'illusions sur ce qu'ils font des résultats des recherches, mais et en fait, on disait déjà en 2020, avec des règles d'assurance chômage qui étaient déjà très complexes, mais qui l'étaient moins, que ce chômeur optimisateur n'existait pas et que les personnes en fait, qui alternent emploi et chômage, elles connaissent peut-être mieux les règles que les autres, mais en tout cas, quand elles font des arbitrages, elles les font en fonction de l'emploi et pas en fonction du chômage. C'est-à-dire, parce qu'elles ne peuvent pas forcément dire non à un employeur, parce que si vous dites non à un employeur, il ne vous rappelle pas. Et donc, voilà, on avait déjà, à ce moment-là, pointé, et on n'était pas les seuls, il y avait plusieurs équipes, et déjà la DARES avait publié des synthèses qui disaient que ce chômeur-là n'existait pas. Et donc, là, il republie. mais bon...
Et du coup, c'est d'où il vient ce mythe? Est-ce que c'est de la pauvrophobie de base? C'est-à-dire, en fait, on n'aime pas les chômeurs, tout simplement, et on leur colle cette étiquette de d'oisif.
Mais il faut savoir que, en fait, pendant toute une période... dans les années, on va dire 2000-2010, il y a eu des réformes d'assurance chômage pour inciter au cumul. C'est-à-dire, on était dans un discours qui était notamment porté par certaines organisations syndicales, la CFDT par exemple, qui disait « il vaut mieux un petit emploi que pas d'emploi du tout, et le petit emploi va être un pied à l'étrier mis pour aller vers l'emploi durable ». Alors, on sait aujourd'hui, par les études, qu'en fait, on assiste à un enfermement dans l'emploi précaire, mais bon. Et donc, il y a eu tout un tas de réformes à ce moment-là, décidées par les organisations syndicales et patronales, réformes de l'assurance chômage destinées à inciter au cumul. Et une fois qu'on a incité au cumul, on a dit « Ah non, non, mais en fait... » Alors, c'était pas le même « on », mais là, le gouvernement dit, à partir de Pénicaud... a dit « Ah non, 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 mais en fait, ils sont trop stratèges. Ben, » En même temps, on a créé des politiques incitatives. Hein. De toute façon, ça va jamais, quoi.
C'est des économistes fous, c'est-à-dire des économistes fous qui pensent qu'effectivement, ensemble, le patron et l'entreprise et le salarié vont optimiser les prestations chômage à partir de l'idée également folle que le travailleur choisit de travailler ou pas en fonction des prestations chômage, alors que vos travaux et de nouveaux travaux prouvent que non, bien sûr, le travailleur ne peut pas dire du jour au lendemain « j'arrête de travailler pour avoir du chômage » ou « je refuse un emploi ». Donc, c'est un modèle d'économiste fou.
Et Cécile Hautefeuille, ça sous-tend encore en plus l'idée qu'il n'y aurait aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut quand on est au chômage.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je me souviens très bien que le premier, pour revenir juste sur l'idée précédente, le premier qui a utilisé le mot d'optimisation pour le chômage, c'était Pierre Gattaz, quand il était à la tête du MEDEF. Concernant les contrôles...
Rendons à César ce qui est à César.
Exactement. Concernant les contrôles, bien sûr que si, il y a des contrôles. Bien sûr que si, il y a des contrôles. Les contrôles ne font qu'augmenter. C'est-à-dire que, alors je n'ai plus les dates précises en tête, mais il me semble que courant 2023, la volonté était de multiplier par 2 les contrôles. On était à 500 000 contrôles par an. Et maintenant, ils veulent, Olivier Dussopt l'avait annoncé avant de partir, ils veulent encore les doubler, les contrôles. Donc oui, des contrôles, il y en a. Les services du contrôle de la recherche d'emploi de France Travail, maintenant, tournent à plein régime. Ça contrôle, ça contrôle et ça contrôle. Et ça contrôle en priorité Et ça, c'est quelque chose, pareil, qui est documenté. Ça contrôle en priorité sur ce qu'ils appellent des viviers de personnes qui sont positionnées sur des jobs en tension. C'est-à-dire des personnes qui recherchent un emploi dans les métiers, par exemple, de la restauration. On l'a vu tout à l'heure, hein, tous les patrons pleurnichent parce qu'ils ne trouvent personne. Eh ben, en priorité, on va contrôler ces personnes-là. Mais après, tout le monde peut passer à la moulinette du contrôle. Il y a des contrôles aléatoires et il y a des contrôles sur signalement des conseillers à l'emploi dans les agences et des contrôles sur des viviers, ce n'est pas mon mot, mais des viviers de personnes qui sont positionnées sur des jobs en tension.
On les contrôle plus parce qu'on considère que pour eux, c'est plus facile de trouver un emploi, c'est ça ?
Oui, et puis bah, du coup, ce n'est pas normal qu'ils ne travaillent pas, évidemment.
Je recite le titre de votre livre. « Chômeur, vos papiers ». C'est fort comme expression. Parce qu'évidemment, on pense à la police tout de suite.
Effectivement. Pour aller dans le sens de ce qu'a dit Cécile Hautefeuille, il y a vraiment là... donc alors, dans les dernières annonces de Gabriel Attal, lui, il a annoncé tripler d'ici 2027. C'est un peu toujours...
Conseil échalote, toujours plus.
Voilà. Gabriel Attal a dit tripler d'ici 2027. Et il y a effectivement... des objectifs qui sont fixés à France Travail maintenant pour augmenter à la fois le nombre de contrôles réalisés et parmi ces contrôles, la part des signalements, c'est-à-dire la part des on va dire, dossiers de demandeurs d'emploi, demandeuses d'emploi, transmis par les conseillers et les conseillères au service de contrôle. Donc il y a très clairement là un renforcement, mais en fait, tout ça fait système. Enfin, je veux dire, y a vraiment cette idée qu'on sort, sort de l'idée de la période de chômage comme un droit, ben déjà comme le chômage comme un risque, et face à ce risque, on a une protection, on a des droits. Là, on est complètement sorti de ça.
C'est-à-dire que là, le risque devient... très concret, c'est-à-dire d'être au chômage, mais en plus de ne plus avoir d'allocation. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on fait tout pour que le chômage fasse encore plus peur que ce qu'il provoque déjà. C'est-à-dire qu'a priori, personne n'a très envie de se retrouver au chômage. Mais là, en plus, on se dit, mais si je me retrouve au chômage, c'est une catastrophe, quoi.
C'est effectivement l'objectif avec ce qui a déjà été dit précédemment sur le fait que ça a des effets sur ce que vous allez accepter, en fait... ce que vous allez accepter comme emploi pour sortir du chômage, aussi ce que vous allez accepter en tant que salarié en poste, puisque bon, vous n'avez pas franchement envie de vous retrouver au chômage dans ces conditions-là. Et donc, ce sont effectivement les luttes pour les conditions de travail, pour les niveaux de rémunération qui pâtissent de ça, en fait.
Alors, je le disais en ouverture de cette émission, il y a un point de départ dans tous ces débats à chaque fois, c'est la fameuse dette. Elle est partout.
Un puits sans fond. L'INSEE a révélé aujourd'hui l'ampleur du déficit public de la France. 5,5% du PIB. C'est bien plus que prévu par le gouvernement qui pourrait être tenté de réduire les dépenses de santé.
Des finances publiques qui se consument à mesure que le déficit se creuse. Très loin des 4,9% attendus pour 2023, il atteint finalement les 5,5% du PIB.
Roulement de tambour parce qu'on l'attendait, on le craignait et les craintes étaient fondées. Le chiffre du déficit est dur pour l'économie française.
Et c'est maintenant que les choses se compliquent. Comment trouver les milliards qui manquent pour boucler le budget ? Comment continuer, par exemple, à financer la transition écologique sans marge de manœuvre ? Qui va payer ce dérapage non contrôlé ?
Nous sommes installés sur le podium des trois pays les plus endettés de la zone euro, aux côtés de l'Italie et de la Grèce. C'est, disons-le simplement, consternant. On attend des mesures effectives. Bruno Le Maire se dit ouvert à tous les débats. On voudrait surtout des décisions pour que nos enfants ne payent pas éternellement nos dettes.
Roulement de tambour. Henri Sardignac, vous avez publié un entretien dans Marianne cette semaine, enfin le 1er avril, et entretien titré « Contrairement à ce qu'affirme le discours sur la dette, la France ne vit pas à crédit ». Parce que c'est vrai que quand on écoute tout ce qui se raconte sur la dette et le déficit, on a l'impression que, pour reprendre une expression qui a été très en vogue à un moment, on adore cramer la caisse en France et que finalement ça justifierait toutes les réformes. Vous, vous dites l'inverse en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre...
J'ai un peu résumé votre pensée. Mais,
il ne faut pas confondre le budget des finances publiques avec la France. La France ne vit pas au crédit. On a un taux d'épargne de 17%, donc il y a une partie importante de notre production qui est épargnée, qui est investie, donc c'est pas, on vit pas à crédit, on n'a pratiquement pas de... On n'a pratiquement pas de dette vis-à-vis de l'extérieur. Une grande partie de la dette publique est en fait détenue par des Français. Les Français, cette année, enfin l'année dernière, ont massivement épargné. Et donc, naturellement, ben, en contrepartie, on a une dette qui est massivement détenue par les Français. Et quand on dit on va laisser nos enfants payer notre dette, il faut rappeler qu'à nos enfants, on va peut-être laisser la dette, mais on va aussi laisser les titres publics qui ont financé la dette. Donc les enfants, leur problème, ça sera... Bon, on va avoir certains de nos enfants riches qui auront des titres de dette et d'autres qu'on n'auront pas. C'est un problème nos enfants, mais ce n'est pas un problème. On ne vit pas au détriment de nos enfants.
Mais alors du coup, encore une fois, je vais jouer les esprits simples. Pourquoi, encore une fois, puisque la crainte, c'est le déficit, c'est la dette, etc., taper sur un organisme qui a des comptes excédentaires? Il y a quelque chose de très contradictoire dans tout ça.
Oui,
on s'en prend à quelque chose qui est en bonne santé pour finalement combler quelque chose qui serait en très mauvaise santé.
Comme l'a dit Claire, la bonne santé, elle s'explique quand même.
Non, bonne santé relative, mais en tout cas,
s'explique quand
financièrement...
même par un régime particulièrement draconien. Mais il est évident qu'on tape là sur 40 milliards alors que c'est pas l'essence du problème quand on a... des dépenses publiques qui représentent 1500 milliards. Donc le problème, c'est effectivement le gouvernement choisit de polariser sur les chômeurs et c'est une campagne idéologique disant c'est les chômeurs qui sont responsables de la dette. Il faut quand même rappeler, pour donner des chiffres, que le gouvernement a décidé de consacrer 20 milliards à l'apprentissage, alors que l'apprentissage, maintenant, ça profite principalement à des Bac plus 3, Bac plus 5, 20 milliards comme ça. Le gouvernement, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, il y a 72 milliards de réduction d'impôts, dont une grande partie ont profité aux grandes entreprises et aux plus riches. On a 90 milliards d'exonération de cotisations sociales, dont une partie, selon toutes les études, ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a des endroits où... Bon, je ne parle pas de l'optimisation fiscale, du fait que les plus riches, ils payent très peu d'impôts parce qu'ils ont des... Ils montent des organismes ad hoc, tout ça, voilà, le problème, c'est pas les chômeurs, c'est, on peut dire, il y a une stratégie gouvernementale depuis l'arrivée au pouvoir de Macron qui est basée sur l'idée on va réduire les impôts pour les entreprises et les plus riches, ça va augmenter l'attractivité de la France et ça va nous permettre d'avoir de la croissance et de tout financer ce qui ne marche pas. Et donc, quand ça ne marche pas, on trouve des boucs émissaires et les boucs émissaires, ben, c'est les chômeurs et puis... Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les 60-64 ans qui ne travaillent pas assez, qu'il va falloir remettre au travail, parce que une des grandes idées de ce gouvernement, ça va être de diminuer la durée d'indemnisation pour les chômeurs seniors, ceux qui ont le plus de difficultés à retrouver un emploi.
Alors, vous me faites une transition quasiment parfaite, parce que je voudrais qu'on parle de Gilbert Sept, qui est le nouveau patron du COR, le fameux Conseil d'orientation des retraites, dont on a beaucoup parlé, évidemment, au moment de la réforme l'année dernière, et dont Libé dit qu'il murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron. Et je voudrais qu'on voit un extrait d'une tribune qu'il a publiée dans Le Monde, dans laquelle il appuie la réforme, les réformes du marché du travail. Il dit « Une grande cohérence d'objectifs caractérise donc ce train de réformes qui, pour certaines, ont déjà contribué au dynamisme de l'emploi en France sur les dernières années. Ces réformes pourront être ajustées en fonction des éclairages qui seront apportés par leurs évaluations. » Tribune publiée en janvier 2024, si je ne dis pas de bêtises. Claire Hautefeuille, on a l'impression qu'il y a... Alors, Libé écrit... Macron a pris l'habitude maintenant de nommer des gens qui sont proches de lui à la tête de hautes institutions qui sont censées être indépendantes. Le Conseil d'orientation des retraites est censé être indépendant. On a vu ce qu'il en a été pendant la réforme. Ça a été très compliqué entre le COR et le président et le gouvernement. L'arrivée de Gilbert Sept et cette tribune dans Le Monde, on sent bien qu'il y a une volonté quand même préparer les esprits à encore plus. C'est-à-dire que même si le Conseil d'orientation des retraites maintenant dit « bah non, finalement, ces réformes, elles nous vont », alors que pendant la réforme des retraites, on sentait bien qu'il y avait des oppositions et que c'était compliqué, on se dit « bon, bah finalement, tout le monde est d'accord, quoi ».
Oui, bah, c'est clair que de toute façon, les choses... le rouleau compresseur va continuer et comme ça vient d'être dit, le gros enjeu là, qui arrive sur l'emploi des seniors, ça pourrait faire très très mal. Alors, c'est un peu embêtant pour l'exécutif parce que c'est quand même un petit peu son électorat aussi. Mais le discours, et en tout cas pour les seniors, il est très clair. Bruno Le Maire n'arrête pas de le répéter depuis des mois. Il faut effectivement encore réduire leur durée d'indemnisation puisqu'ils avaient déjà été concernés par la précédente, hein, les seniors, mais il y a différents scénarios qui ont été chiffrés à la demande du ministère du Travail, et ça peut faire très très mal, notamment sur le fameux moment où les personnes n'ont plus d'emploi et ont le droit à des allocations à taux plein jusqu'à la retraite à taux plein. Ça pourrait être supprimé. Enfin, ils peuvent modifier aussi les bornes d'âge et ça peut vraiment faire très mal. On sera fixé assez rapidement dans quelques jours. Mais clairement, oui, les seniors ne vont pas être épargnés.
Sur le profil de Gilles Berset. Alors, une question pour Henri Sterdignac. Vous avez cofondé les économistes atterrés.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'avoir perdu la bataille?
Je vais vous répondre en trois phrases. Premièrement, donc, Gilles Berset, à la tête du corps, c'est un scandale total. C'est-à-dire que normalement, à la tête du corps, ben, il faut prendre un haut fonctionnaire neutre, comme étaient les trois précédents présidents ou présidentes du corps. Donc là, bon, c'est tout à fait un idéologue qui est nommé. Ensuite, deuxièmement, on a un idéologue qui s'est toujours battu pour réduire les droits des travailleurs, qui s'est battu pour réduire les droits des travailleurs dans l'entreprise. Et donc là, c'est tout à fait... qui s'est battu contre le syndicalisme. C'est tout à fait tragique de le nommer à un tel poste. Et troisièmement, nous n'avons pas l'impression... Bien sûr, on peut dire qu'on a perdu la bataille, mais la bataille continue. Je veux dire, elle n'est pas... on a une bataille nécessaire à la fois parce qu'il faut prendre le tournant écologique et parce qu'il faut prendre un tournant social pour que les droits des travailleurs soient mieux respectés, pour que les travailleurs aient plus la voix au chapitre au niveau des entreprises, que ce soit au niveau du droit du travail, mais même aussi au niveau de l'orientation générale de l'entreprise. Donc, nous ne sommes pas défaitistes.
La bataille continue. Claire Vivès, on a une impression peut-être globale, d'irréversibilité de tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes ces réformes, comment un futur gouvernement pourrait revenir dessus sans que ça recomplique encore tout, sans que finalement, plus personne s'y retrouve, quoi. On a l'impression que tout est fait pour que ça soit gravé dans le marbre.
Ce qui n'a pas encore été fait, et enfin après, sur l'irréversibilité, il me semble que non. C'est-à-dire, aujourd'hui, donc, on a vu, il y a eu... une loi importante en 2018, enfin il y en a eu plusieurs, mais loi de 2018, par exemple, qui impose une lettre de cadrage, il y a eu la suppression des cotisations, enfin ce qui a été fait dans un sens peut être fait dans un autre, ça c'est au politique, enfin ça relève plutôt du politique. Dans les choses qui pourraient être difficiles, enfin, toujours possible de revenir, mais qui pourraient être difficiles sur lesquelles il pourrait être difficile de revenir en arrière, il y a eu une annonce, on n'en a pas parlé encore ici, mais de Bruno Le Maire, alors je ne sais plus, ça devait être fin mars, début avril, je ne sais plus, qui lui disait qu'il voulait, en fait, nationaliser l'assurance chômage, en disant, ben, en fait, les salariés... c'est les organisations syndicales et patronales, les chômeurs, c'est l'État. Bon, ça, c'est un propos qui est complètement contestable en lui-même, mais bon, c'est comme ça qu'il justifiait ça. Et c'est très clairement un élément de réforme qui est vraiment dans l'horizon. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Ça, j'en sais rien, mais je pense que là-dessus, C'est vraiment dans l'horizon et on va voir un petit peu ce qui va en être. Et bon, les organisations syndicales et peut-être même d'ailleurs patronales n'y sont pas favorables. Mais il y a cet élément-là qui pourrait rendre les choses, si ce n'est irréversible, mais plus difficile à repartir dans l'autre sens, quoi.
Cécile Hautefeuille, on l'a dit tout à l'heure, les négociations ont été rangées dans un tiroir, les dernières. Là, Gabriel Attal annonce peut-être des nouvelles négociations. Quel est l'esprit de mobilisation des partenaires sociaux? Parce qu'on peut se dire, il va falloir y retourner pour finalement, de toute façon, arriver à quelque chose qui n'ira à personne, qui conviendra à personne, puisque, sauf miracle, on ne convaincra pas Gabriel Attal de tout annuler, quoi.
J'aurais du mal à parler à leur place, mais effectivement, je pense quand même qu'ils ne vont pas lâcher. Enfin, je veux dire, ce qu'on appelle le paritarisme, ils y tiennent beaucoup. D'un côté, les patrons, d'un côté, les représentants des patrons, les représentants des salariés qui discutent ensemble. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher. Enfin, ils sont absolument furax. Certains et certaines l'affichent clairement. Ils sont vraiment furax. Et d'ailleurs, ça faisait un moment que ça les rendait furax de voir que cet accord qu'ils ont réussi à obtenir fin 2023 avait été rangé en disant « on verra plus tard ». Là, on leur annonce une nouvelle lettre de cadrage. Je pense que oui, ils vont négocier, ils vont y aller. Ils vont essayer d'obtenir des choses, d'obtenir un accord. C'est sûr que ça ne doit pas être très agréable d'avoir l'impression de se faire marcher dessus en permanence, parce que clairement, c'est ce qui se passe. L'exécutif passe son temps à piétiner les partenaires sociaux, quoi. Mais je pense qu'ils iront quand même. Je ne suis pas à leur place, mais je pense qu'ils iront quand même. Oui. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont tenir leur rôle tant qu'il existe, comme vient de le dire Claire. Il y a quand même un grand danger qui pèse sur la reprise en main totale de l'assurance chômage, de sa gouvernance. Donc, tant qu'ils sont encore là, qu'ils y aillent.
Ça nous promet un printemps chaud.
Possible ou à l'automne, puisque ce sera plutôt ils vont commencer à négocier une fois que la négociation sur la filière senior sera terminée. Et a priori, ils veulent une réforme à l'automne. Et ça a été la réaction d'à peu près tout le monde quand Gabriel Attal l'a annoncé. C'est quoi encore? C'est terrifiant.
C'est le mot de la fin. Il n'est pas très gay, mais on va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus discuter en plateau. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et puis, je le rappelle, Arrêt sur Image, c'est vos abonnements et vos dons. Nous sommes en campagne d'abonnement en ce moment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. À très bientôt sur le plateau.